Vous écoutez le journal d'Iggy, chapitre 75. Les fondamentaux d'une bonne prairie avec Claire-Marie d'Écus Paradise. Bonjour et bienvenue dans le podcast qui raconte le quotidien en tant que propriétaire de chevaux. Moi c'est Fanny, je suis cavalière et propriétaire d'une jeune jument qui s'appelle Iggy. Avant de me lancer dans cette aventure dont j'ai toujours rêvé, je me suis posé énormément de questions. Et il m'a manqué un support pour pouvoir faire mes recherches, pour pouvoir m'aider, me guider à travers ce parcours. C'est comme ça que j'ai eu l'idée de créer ce podcast et que je vous donne du coup rendez-vous depuis plus d'un an, tous les mercredis, pour vous partager des connaissances, mais aussi de la prise de recul en tant que cavalier cherchant à devenir propriétaire. Vous trouverez donc dans ce podcast de l'inspiration, de l'introspection, des témoignages, des idées, mais aussi des outils pour vous permettre à votre tour de passer à l'action et de construire votre relation rêvée. Que ce soit en solo ou avec mes invités, je pose ici tout haut les questions que tout le monde se pose tout bas. Ça y est, nous y voilà. Je sais que vous êtes nombreux et nombreuses à attendre cet échange avec Claire-Marie. Vous m'avez fait beaucoup de messages dans mon DM Instagram à ce sujet depuis que j'ai démarré toute la série sur l'hébergement ou la détention de nos chevaux. Je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps. Je vais juste vous donner l'intention de cet épisode pour que vous sachiez un peu mieux à quoi vous attendre. Claire-Marie et moi avons pris le temps de vous teaser en quelque sorte sur le contenu de la masterclass qui aura lieu le 9 avril prochain à 19h. Si c'est la première fois que tu en entends parler et que tu n'es pas au courant de ce qui se passe, j'invite Claire-Marie à mes côtés pour 2h30 de masterclass en live afin de détailler ensemble les connaissances et le plan d'action à mettre en place si tu souhaites devenir propriétaire à la maison ou en tout cas gardien autonome ou en tout cas en devenant gardien autonome dans l'aménagement d'un pré pour tes chevaux. Si tu arrives par hasard sur cet épisode sans avoir écouté les précédents, je t'invite à écouter le chapitre, je crois donc 72, 73 et 74 pour te faire un premier avis si c'est le rêve de ta vie d'héberger tes chevaux chez toi. Il y a en effet bien des connaissances à avoir et il ne s'agit pas simplement de louer un petit carré d'herbe verte pour pouvoir gérer au mieux leur quotidien. Pas de panique, il n'est pas question non plus de te décourager. L'important, c'est de pouvoir se préparer et planifier pour limiter la charge mentale une fois que tu te seras lancé dans cette grande aventure. Il semblerait que nous soyons nombreux, nous les propriétaires de chevaux, à avoir ce rêve commun. Parce que la majorité des places pour la masterclass sont déjà parties. Donc si tu veux nous rejoindre juste après cet épisode, tu trouveras le lien en description pour pouvoir réserver ta place à nos côtés. Enfin, je vous rassure, ceci n'est pas qu'un épisode teasing. Claire-Marie donne déjà des premières clés super précieuses à avoir en tête pour savoir déterminer c'est quoi l'environnement idéal pour un pré, une pâture, destiné aux chevaux. Je vous propose de retrouver notre échange juste après le jingle. Alors, juste avant que l'interview avec Claire-Marie démarre, j'ai un petit erratum à faire de sa part. Claire-Marie a démarré son activité Écus Paradise en 2022 et non pas en 2002, comme elle le dit parce que sa langue fourche. Donc voilà, erreur réparée, je vous laisse avec notre échange. Salut Claire-Marie.
Salut.
Merci de te joindre à moi aujourd'hui. Claire-Marie, on se suit, on discute, ça fait plusieurs mois. On a participé aussi toutes les deux à la dernière édition du sommet virtuel de la Cavalcade, organisé par notre chère Audrey de Murmure Animal, si tu passes par là, big up. Donc c'était en septembre 2023. Je crois pas me tromper, en plus, je crois que tu es une auditrice régulière du podcast.
Oui, c'est le rituel du lundi matin.
Et ça, c'est du coup trop chouette. Donc je suis un peu émue aussi. Et je suis très contente de te recevoir aujourd'hui parce que du coup, je sais que tu connais bien le format. De mon côté, moi, j'ai aussi eu la chance de venir déjeuner dans ton super petit coin de paradis l'année dernière. Et d'ailleurs, je compte bien revenir aussi. Et on va co-organiser ensemble une masterclass le 9 avril prochain à 19h sur un sujet qui m'est hyper personnel parce que ça vient vraiment toucher à l'engagement que j'ai pris depuis en fait que le podcast est devenu quelque chose d'un peu plus gros que juste mon petit carnet de bord, c'est-à-dire faire en sorte que chaque cheval trouve sa maison pour la vie et surtout soit hébergé dans de bonnes conditions. Donc moi, il n'y a rien que je trouve de plus triste que des chevaux qui sont un peu abandonnés dans un paddock, souvent par manque de connaissances, en fait, de la part de certaines personnes qui voulaient bien faire au départ. Et c'est là qu'on se rend compte que l'aménagement, en fait, d'une prairie qui corresponde aux besoins du cheval, c'est pas si simple, mais
Il faut surtout aussi que ça corresponde aux besoins de l'humain. En tout cas, ce que l'humain peut mettre comme temps, comme énergie, comme ressources pour que justement le cheval soit bien en fait dans cet endroit-là. Du coup, aujourd'hui, on va planter le décor toutes les deux. On va partager les fondamentaux d'une bonne prairie équine. J'aimerais qu'on donne vraiment des premières pistes de réflexion pour chaque cavalier, chaque propriétaire qui aimerait devenir autonome dans la gestion en fait de ses chevaux, soit en les ayant à la maison, soit par exemple en louant un pré. Et bien évidemment, tous les conseils qu'on va donner, même si vous avez déjà votre cheval dans un pré en autogestion, vous pourrez vous en inspirer. Du coup, avec près cette longue intro, Claire-Marie, est-ce que tu peux commencer par te présenter, nous parler un petit peu de ton parcours, de ton ambition aussi derrière ton super projet Equus Paradise. Et après, ben, on regardera dans le détail ces fameux fondamentaux.
Eh ben, avec plaisir, Fanny. Déjà, merci pour l'invitation sur le podcast. Je suis honorée vraiment d'être un peu dans les coulisses à mon tour. Donc, ben, moi, je suis Claire-Marie Levaillant. Je suis installée dans le Loiret depuis 2019. Et je suis conseillère en aménagement équestre depuis fin 2002. Et donc, j'accompagne des professionnels et particuliers dans la conception ou le réaménagement de leurs hébergements équestres. Donc, c'est des accompagnements qui sont à la carte en fonction des besoins du projet. Je fais des visites de diagnostic, je dessine les plans d'aménagement et éventuellement, je fais des plans d'implantation de haies et d'arbres qui sont adaptés aux équidés. Et j'accompagne également dans la gestion de pâturage. Après, voilà, pour partager un peu mon parcours, donc j'ai baigné très tôt dans le milieu du cheval, puisque mes sœurs faisaient de l'équitation et que j'avais l'honneur de pouvoir caresser les poneys après leur cours. Donc, c'est tout naturellement que vers 6 ans, j'ai commencé à mon tour l'équitation à Shetland, d'abord. Donc, j'ai littéralement grandi dans ce centre équestre qui est basé dans le Tarn. J'y ai passé tous mes mercredis après-midi, tous mes week-ends pendant une dizaine d'années. C'était un peu l'époque où, quand tu rendais service régulièrement, on te le rendait bien, tu pouvais sortir les chevaux en main, monter les jeunes poneys gratuitement. Il y avait une belle confiance qui poussait pas mal de cavaliers et cavalières à passer du temps avec les chevaux autrement qu'en étant sur leur dos. Donc, c'était mon cas.
Ouais, moi aussi, j'ai eu ça. J'ai eu la chance d'avoir ça, d'avoir le centre équestre où littéralement les parents te drop, tu sais, c'est bien, quelqu'un va s'occuper d'eux.
C'est la bonne époque où on était abandonnés au centre équestre. Donc après, j'ai un parcours un peu atypique parce que j'ai d'abord voulu tout de suite me lancer dans une grande carrière auprès des chevaux. À l'époque, mes parents croyaient vraiment en moi. Hein. Ils m'ont donné l'opportunité de faire sport-études équitation. Et donc, j'ai commencé mon lycée comme ça, en prenant des cours par correspondance au CNED. C'était assez intéressant parce que j'avais 3-4 chevaux à sortir au quotidien. Des chevaux qui faisaient de la compétition et des chevaux à former assez jeunes. Donc, c'était une période qui était très formatrice d'un point de vue équitation, compétition. Par contre, je m'y suis pas retrouvée côté relations et soins au cheval. Moi, j'étais une des seules qui n'avait pas son propre cheval dans ce système de fonctionnement. Et voilà, il me manquait vraiment ce côté-là de la relation avec un cheval en particulier.
Oui, il y avait que la pratique, en fait.
Voilà, la pratique, la technique, mais tout ce qui a été les à côté. Donc, en fait, nous, on n'était pas du tout impliqués dans la gestion de l'hébergement des chevaux. On avait le droit de les mettre au paddock, on avait le droit de faire tout ce qu'on voulait avec en termes d'équitation, de sortie, de promenade. Mais tout ce qui était alimentation, le fait qu'ils soient hébergés au box ou à l'extérieur, on n'avait pas du tout la main. Donc, c'est pas là-bas que j'ai appris beaucoup de choses sur l'hébergement des chevaux, malheureusement. Finalement, après cette expérience, je suis repartie dans le système scolaire classique avec une idée en tête. C'était pouvoir m'assurer d'avoir un bon métier pour pouvoir profiter de ma passion et avoir mes propres chevaux. Comme je suis issue d'une famille d'ingénieurs, c'est un peu naturellement que j'ai emprunté la même voie et je me suis spécialisée dans un domaine par contre qui me plaisait, donc la transition écologique et l'environnement. Voilà, c'est là-dedans que je suis partie. Donc je suis ingénieure énergie environnement de formation. Mon parcours personnel et professionnel, ils m'ont amené à faire ce lien logique en fait entre la gestion de l'environnement et le bien-être équin, notamment grâce à une très bonne expérience au sein d'une pension en équipiste, donc le Salis Paradise pour le citer. Parallèlement, je me suis aussi beaucoup rapprochée de la permaculture, donc c'est une philosophie de conception qui m'a tout de suite parlé. et elle pouvait s'appliquer aux hébergements équestres, donc bingo.
Ça, t'avais quel âge à peu près, enfin, c'était il y a combien de temps à peu près, Claire-Marie? Parce que du coup, t'as fait tes études, pendant tes études, t'avais pas de chevaux.
Si, India, je l'ai... En fait, j'ai fait mon école d'ingénieur en apprentissage, donc j'avais déjà mon salaire qui tombait à la fin du mois, et c'est là où j'ai pris India. Donc là, c'était en 2018.
Et du coup, c'est là où t'étais au Salis?
Et j'étais au Salis, voilà. Dès que j'ai eu India, c'était la première pension, la première et dernière, hein, finalement, pension à laquelle j'ai été confrontée. Donc, très bonne expérience pour ma part et hyper formateur. Et vraiment, je dois beaucoup à cette pension et à Christelle qui la gère pour tout ce qu'elle m'a transmis et l'évolution. En fait, j'ai suivi, on va dire, en direct l'évolution de la pension parce que c'était une pension avec beaucoup d'investissements personnels de la part de Christelle pour le bien-être des chevaux. Donc, hyper formateur, ça m'a vraiment ouvert les yeux sur qu'est-ce que représentait finalement le fait d'avoir des chevaux, mais dans la globalité, quoi. Et finalement, donc en créant Equus Paradise, mon ambition, c'était de pouvoir aider n'importe quel type de projet à concevoir son propre système de fonctionnement qui soit adapté à la fois aux capacités, moyens humains qu'on peut y mettre, mais aussi aux besoins des chevaux et aux besoins de l'environnement qu'on partage avec eux.
Et du coup, maintenant, tu as une deuxième jument et elles sont chez toi. Donc, t'as commencé par créer ce petit environnement et ce petit écosystème d'abord à la maison. Est-ce que Equus Paradise est venu justement du fait que tu pouvais le réaliser aussi pour toi et du coup ça arrivait à peu près en même temps, cette volonté de sortir, enfin tu vois, de monter Equus Paradise en même temps que toi tu montais ton projet personnel ou c'était vraiment bien rangé dans ta petite tête depuis un certain temps et du coup c'était juste le moment de le sortir, quoi.
Ouais, alors en fait le projet effectivement il s'est concrétisé par le fait de pouvoir expérimenter par mes propres moyens et avoir cette liberté de quand on est chez soi de pouvoir faire entre guillemets ce qu'on veut. Donc ça fait mûrir le projet de lancer Equus Paradise, sachant que j'avais quand même cette volonté j'ai toujours eu la volonté de pouvoir créer des espaces agréables qui prennent soin de la nature et qui soient adaptés aux chevaux et à nous. Donc ça s'est fait hyper naturellement, presque sans que je m'en rende compte. Et donc oui, les juments, elles sont arrivées en 2021 après l'achat de la maison. Et elles vivent donc sur un système d'équipistes qui est sur environ 1,5 hectare. Donc à la belle saison, elles sont en pâturage tournant. Après, moi, j'ai la particularité d'être très proche de la Loire, donc j'ai des sols finalement qui sont très sableux. Et j'ai aussi des prairies en zone humide qu'on me prête pour du pâturage estival et qui sont vraiment c'est un trésor de biodiversité et donc de diversité alimentaire pour les juments.
Du coup, la biodiversité, on va voir, c'est un élément clé aussi de l'environnement, des prérequis d'un bon environnement. Est-ce que du coup, toi, tu peux nous en dire un peu plus sur comment justement t'as pensé en fait ton aménagement? Est-ce que tu estimes que justement il correspond, il commence à correspondre à ce que tu avais en tête en termes de prairie idéale? Est-ce qu'en fait, de base, il était parfait, entre guillemets? Ou est-ce qu'il a fallu justement construire, tu vois, pour que ça devienne ce que t'avais en tête? Et est-ce que c'est toujours un work in progress ou est-ce que tu touches du bout du doigt, on va dire, un idéal?
Mon projet, moi, il s'est fait un peu par étapes, dans le sens où j'ai fait par phase sur la surface que j'avais. Et ça, c'est quand même super intéressant de pouvoir le faire quand c'est possible, pour pouvoir ajuster derrière certaines décisions qu'on a pu prendre ou ne pas prendre. Donc moi, j'ai pas eu de grand retour en arrière. Enfin, j'ai même pas fait de modifications sur le plan initial que je m'étais fixé, ou très peu. Et aujourd'hui, je peux dire que je suis très satisfaite de l'aménagement que j'ai fait, mais il est idéal, on va dire, de mon point de vue, enfin du point de vue de mon projet et de mes juments, et donc aussi de là où je suis tout particulièrement, de l'environnement avec lequel j'interagis. Et c'est-à-dire que si demain je change peut-être rien qu'un élément dans cette équation qui est très bien équilibrée, ça va probablement me demander une adaptation de mon aménagement ou de la façon dont je gère au quotidien. Et c'est un peu ce que je souhaite surtout transmettre, c'est que l'aménagement idéal, il ne pourra être idéal que si tout le monde s'y retrouve, donc chevaux, environnement et humains. Du coup, pour mon projet, j'ai trouvé un super équilibre actuellement, mais qui me demande d'être bien vigilante sur comment et quand je fais pâturer mes juments, notamment sur les 7 parcelles de pâturage. Parce que toutes les parcelles chez moi, elles sont extrêmement différentes. Et donc, ça me demande de choisir un ordre de rotation bien défini pour pouvoir mettre à profit les qualités de chaque parcelle au bon moment et sur la bonne durée pour mes juments. Voilà, ça, c'est un peu le côté un petit peu plus complexe, mais qui maintenant est plutôt bien rodé. Et je sais que en fonction des années, j'ai une marge de sécurité sur laquelle je peux jouer par rapport à la diversité de mes prairies. Donc, c'est très intéressant, finalement, d'avoir de la diversité.
Déjà, je trouve qu'il y a une première clé hyper importante que tu as dit, c'est que le projet idéal, c'est par rapport à des critères qui sont, somme toute, singuliers et personnels pour chacun des propriétaires, gardiens, mais aussi des chevaux. Et qu'en fait, on ne peut pas juste faire des copier-coller. Donc, ça, c'est une première clé qui est hyper essentielle. C'est il faut construire par rapport à l'endroit. Me poser une question, quand tu es arrivé, toi, il n'y avait rien. C'est-à-dire que tu n'as pas acheté un lieu où il y avait plus ou moins déjà un aménagement équestre. T'as tout fait, en fait.
Oui, on est parti. Alors même, voilà, le terrain, nous, il est bien tout autour de la maison et c'était seulement un champ. Il n'y avait pas vraiment d'arbres, à part certains arbres en lisière de terrain. Mais sinon, c'était deux champs cultivés en maraîchage il y a une dizaine d'années, qui avaient été remis en prairie naturelle voilà, il y a une dizaine d'années. Mais il n'y a jamais eu de chevaux. Et donc, on partait sur quelque chose d'assez assez vierge, avec aucune clôture, tout était à faire.
Pas forcément, moi je suis venue, donc je me posais la question de si t'étais partie vraiment from scratch, comme on dit. Genre, il y a une feuille de papier, une feuille vierge et on y va. Du coup, ça m'amène une autre question, justement, si on peut un peu aider nos auditeurs déjà à se faire un avis. Si tu devais résumer en 5 points, 5 critères, on va dire essentiels, ce seraient lesquels pour évaluer justement la qualité d'une prairie qui est destinée aux chevaux? Tu vois, moi, j'habite en pleine campagne. Des champs, il y en a partout. Typiquement, je pourrais très bien me dire, OK, j'essaye de récupérer un champ pour monter mon projet. Qu'est-ce qu'on regarde, en fait? Qu'est-ce qui est important à regarder? Parce que c'est pas juste une notion de place. C'est plus complexe que ça.
Oui, si ça pouvait être aussi simple. Donc, du coup, là, je vais essayer quand même d'être assez plutôt généraliste et puis de dézoomer au maximum. Donc, la première chose qui est pour moi très importante, c'est d'avoir conscience finalement de la zone géographique dans laquelle on se trouve et donc de l'incidence que ça va avoir sur nos possibilités d'aménagement et sur comment on va pouvoir atteindre, par exemple, nos objectifs de pâturage. Un deuxième critère, ce serait de prendre connaissance du sol sur lequel on va s'installer, de ses avantages, de ses inconvénients. Parce que voilà, l'importance d'un sol, on est tous au courant que ça peut être assez compliqué à gérer. Donc voilà, ce qu'on appelle l'importance d'un sol, c'est sa capacité à se tenir sans trop se déformer ni se tasser. Et ça, derrière, ça va être un élément hyper décisif sur les possibilités d'aménagement, mais aussi sur la productivité des pâtures.
Ouais, typiquement, quand on dit qu'un sol se surpâture vite, justement, c'est cette fameuse capacité à se tasser ou pas forcément... C'est ça?
En fait, déjà, un sol surpâturé, ça va être un sol notamment sursollicité et donc... qui va perdre un petit peu sa fonctionnalité. Donc derrière, si un sol perd sa fonction... La fertilité du sol va en pâtir, en fait. Donc, c'est une boucle un petit peu...
Sans fin.
Sans fin, tout à fait.
Mais négative, dans le sens négatif du terme.
Voilà.
Et du coup, juste pour revenir sur le premier critère avant qu'on passe aux autres, la différence, en fait, entre la connaissance du sol et la zone géographique, c'est que dans la connaissance du sol, on parle vraiment de sa composition, c'est ça? Alors que quand tu dis la zone géographique, c'est plutôt la manière, enfin, c'est là où on se situe sur le territoire?
Ouais, la zone géographique, ça va plutôt être corrélé au climat. Et en gros, quand on parle du climat, ça va être les précipitations annuelles qu'on peut avoir, les températures moyennes qu'on va avoir.
En fait, dans le premier, c'est genre, en gros, est-ce qu'on est dans le sud de la France et que typiquement, il n'y a pas beaucoup de précipitations, donc de toute façon, bon, on aura principalement des cailloux, voilà, avec de l'herbe sèche. Alors que, si, je ne sais pas, si on remonte dans le nord, bah forcément, Par exemple, je suis pratiquement au niveau de la Normandie, bon, bah, il pleut 6 mois sur 12, quoi. Donc, on a des sols qui vont plutôt avoir tendance à se gorger d'eau et on va pas avoir les mêmes problématiques à gérer, quoi.
C'est ça. Si on a un sol, en fait, admettons, on a le même type de sol, mais dans deux régions, typiquement, avec un climat très différent, on n'a absolument pas le même résultat au niveau d'une prairie. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien faire la différence entre à la fois une zone géographique avec son climat associé, mais aussi le type de sol qui va faire en sorte qu'on a telle plante, tel couvert végétal.
Ok, troisième critère maintenant.
Alors, s'il fallait donner un troisième critère, assez intéressant de se poser la question, est-ce que mon terrain il est en adéquation avec les objectifs d'aménagement et de fonctionnement que je veux mettre en place? En gros, pour faire simple, c'est prendre conscience des limites du projet et des limites que le terrain nous donne aussi. Par exemple, si on compte faire du pâturage tournant continu à la belle saison, ben là, il y a une notion de surface minimale qui va être un critère hyper limitant pour le projet, par exemple.
Si on n'a que 5000 m² et 3 chevaux, c'est... Bon, on peut essayer, mais c'est plus challengeant que si on a 2 hectares, quoi.
C'est ça. Là, on va pouvoir mettre une croix sur le fait de faire un pâturage tournant continu. Par contre, ça n'empêche pas de faire un pâturage tournant, mais hyper suivi pour pouvoir ouvrir les pâtures à certains moments. Mais alors là, c'est sûr, on sera, enfin, sur une surface comme ça, on sera pas sur du continu. Du coup, je vais passer au quatrième conseil. Ce serait de faire attention aux accès et aux cheminements. Alors, pour être un peu plus précise, que ce soit pour nous en tant que propriétaires. Bah déjà pour se faciliter la vie, parce qu'il y a énormément de projets où je constate que les accès et les cheminements sont pas du tout optimisés. On fait des grandes distances de marche, parfois pour rien. On se fatigue sur le long terme, alors que en fait il y a plein de petites astuces pour éviter ça et pour améliorer finalement la manière dont on se déplace sur notre terrain, parce que c'est des trajets hyper récurrents, donc faut vraiment penser à optimiser nos déplacements. Idem pour les chevaux, en fait, même si le mouvement, c'est la vie, hein, pour eux, c'est ce qu'on souhaite, hein, qu'ils bougent, qu'ils soient actifs, faut quand même essayer de leur rendre le quotidien agréable et sécurisant. Donc, il y a certaines configurations à vraiment éviter. Par exemple, le cheminement qui va mener jusqu'à l'eau, pour moi, ça, c'est pas censé être un parcours du combattant. Parce qu'il y a certains chevaux qui pourraient vraiment volontairement se retenir de s'y rendre régulièrement. Alors que voilà, c'est un besoin, ils en auraient besoin, ils se retiennent. Donc là, voilà, par exemple sur le critère de l'eau, je pense qu'il faut quand même être assez prudent.
Ouais, c'est hyper intéressant que tu le mentionnes parce que je pense que de plus en plus de cavaliers, gardiens, propriétaires commencent à avoir cette notion de se dire il faut espacer les zones, on va dire, d'intérêt. Voilà, du coup, on peut vite se retrouver à avoir des idées un peu farfelues sur l'espacement des zones d'intérêt. Et c'est ça que tu dis, c'est l'eau, c'est pas suffisamment motivant, peut-être pour un cheval. Voilà. Et du coup, ben, même si on veut créer, entre guillemets, du mouvement pour se rendre de l'eau au foin, faut que ça reste une partie de plaisir.
C'est ça. Et puis, il faut aussi s'adapter au type de chevaux qu'on peut rencontrer dans un troupeau, par exemple. Un cheval plus âgé ou un cheval qui pourrait avoir tendance à faire de l'emphysème. Voilà. Il n'y a pas de but à lui rendre l'accès à l'eau plus compliqué. Voire même, pourquoi pas, mettre plus de points d'eau réguliers, enfin, à des endroits réguliers. Mais ça, c'est vraiment du cas par cas. Et c'est ça qui est intéressant aussi quand on a une diversité de troupeaux, c'est de réfléchir à chaque individu et de raisonner en prenant en compte qu'on a des problématiques, des pathologies et adapter le projet.
Et est-ce qu'on en a un cinquième petit critère, hein?
Oui. Alors, j'aurais presque pu le mettre enfin, s'il fallait les classer, je pense que c'est quand même dans le top 3 hein, des conseils, c'est de vérifier vraiment la compatibilité générale du terrain avec l'hébergement des chevaux. Donc, en particulier sur des terrains où il y aurait aucune modulation ou gestion saisonnière de possible, ben, on va éviter de s'installer, par exemple, sur un terrain qui serait composé, je sais pas, à 100% de chênes. Et vraiment, on serait au milieu d'une forêt de chênes ou sur un terrain où on pourrait vraiment être avec une présence de plantes toxiques sur la totalité du terrain, qu'on ne pourrait pas finalement avoir de solution pour clôturer la partie qui gêne. Voilà, parfois ça arrive, hein, des personnes qui achètent des terrains et n'avaient pas connaissance d'une certaine plante.
Moi, dans mon village, il y a eu longtemps un terrain avec une mule et un cheval. Et en fait, c'était un champ de sénaison. Mais un champ de sénaison. Et du coup, voilà, c'est pour ça que je dis, s'il y a rien qui me rend plus triste que de voir des gens qui, par manque de connaissances, se rendent pas du tout compte de la dangerosité potentiellement de la mauvaise gestion d'une pâture. Et juste parce que, voilà, on pense bien faire, mais il y a quand même un minimum de connaissances à avoir, quoi. Bon, spoiler, ce terrain est enfin vide. Voilà. Il y a enfin plus de mules ni de chevaux dessus et il n'arrive pas à retrouver d'acquéreur et je pense que c'est assez simple de deviner pourquoi.
Oui, c'est sûr que voilà, quand on achète un terrain ou quand on va s'installer sur un terrain, surtout s'il y a la présence d'une plante ou d'une essence d'arbre qui prend une grande part du terrain, je pense qu'il faut vraiment se creuser la tête sur cette plante-là et aller plus loin avant de se dire « bon, c'est vendu, j'achète ». Voilà, n'ayez pas hésité, il y a vraiment des personnes qui peuvent vous accompagner sur aussi l'identification de plantes toxiques. Je pense notamment à Equiflore, qui, voilà, organe qui peut éventuellement accompagner sur faire des diagnostics floristiques. Et donc ça vous donnera vraiment tous les éléments pour derrière être sûr que tout est OK. Ou sinon, apprendre à gérer...
Oui, à gérer les plantes qui se ressèment aussi, parce que c'est ça le problème. Mais du coup, je me disais, on mettra... c'est assez facile de trouver des listes de plantes à éviter, donc on mettra ça en lien et en description, puis on mettra aussi du coup les coordonnées de Morgane. Aujourd'hui, il y a quand même de plus en plus, j'ai l'impression, de petites prairies qui sont aménagées en équipistes. Tout simplement, ça s'explique parce que forcément, il y a une espèce de traction qui se fait aussi tout simplement sur l'espace. Notamment quand on est en périphérie de grandes villes, par exemple. Mais même à la campagne, en fait, même s'il y a de la place, la réalité, c'est qu'il faut se la partager entre les agriculteurs, ceux qui veulent héberger leurs chevaux, ceux qui veulent avoir du terrain pour chez eux. Donc, du coup, c'est pas toujours facile de trouver son idéal avec ses hectares et ses hectares à perte de vue. Et c'est pour ça, je suppose, qu'il y a un succès un peu grandissant sur cette gestion, en fait, de petites surfaces. Sur un type plus équipiste. Alors, je parle d'équipiste parce que Paddock Paradise, c'est un terme qui est déposé, voilà, mais du coup, tu nous expliqueras s'il y a une vraie différence ou pas. Est-ce que tu penses que c'est un modèle, entre guillemets, mieux qu'un autre? Parce que, par exemple, toi, c'est celui que tu as choisi aussi pour chez toi, alors tu as quand même une surface intéressante pour deux chevaux, ou pas? Ou pas du tout? Est-ce que c'est vraiment des choix personnels qui sont liés à autre chose et, par exemple, aux critères que tu as cités plus haut?
Oui. Alors ça, c'est une super question. L'équipiste, c'est pas forcément la solution à préconiser dans tous les cas. Mais c'est un modèle, par contre, qui est très intéressant. Car finalement, l'intérêt de l'équipiste, c'est de pouvoir, dans les grandes lignes, espacer les points d'intérêt des chevaux et de relier ces zones par des pistes. Ce qui, derrière, va nous permettre de réaliser un certain nombre de parcelles d'herbes autour de ces pistes. Alors, pour expliquer la différence entre Paddock Paradise et Equipiste, elle se fait, en fait, tout simplement parce que le Paddock Paradise, c'est un concept, une marque déposée par Jamie Jackson. Donc, il y a les grands piliers fondamentaux du Paddock Paradise que vous pouvez retrouver facilement sur Internet. Mais... la différence, avec l'équipiste, c'est que il y a pas d'accès, en tout cas, à de l'herbe comme on peut trouver en France, assez riche, assez verte. Donc voilà, le Paddock Paradise n'autorise pas, on va dire au sens strict du terme, l'accès à l'herbe. Donc les chevaux vont être sur du foin à l'année, contrairement aux équipistes où là on va s'autoriser entre guillemets de faire du pâturage tournant. Et ce qui est super intéressant avec ce système d'hébergement sur équipiste, c'est qu'on va pouvoir favoriser beaucoup plus le comportement naturel du cheval, comme aller chercher sa nourriture dans son environnement, ou passer par des espaces plus ou moins escarpés, avoir des textures de sol différentes, ou rencontrer des embûches, par exemple. Finalement, c'est pas le seul moyen de préserver ces prairies. On peut être sur un modèle aussi plus simple, par exemple, de pâturage tournant à la belle saison et avoir une parcelle sacrifiée pour l'hiver. C'est un modèle différent et qui peut fonctionner tout aussi bien. Mais est-ce que, par exemple, je vais conseiller une équipiste chez quelqu'un qui a un terrain très humide, argileux, et qui en plus n'a pas les moyens ou la volonté hein, de stabiliser? Bah, la réponse, ça va être plutôt non. Bon, après, il y a des personnes assez têtues, hein, mais qui vont se lancer dans le projet. Je les aurais prévenues. Il faut pas oublier donc qu'il existe quand même des façons de fonctionner un peu entre deux qui permettent de gérer plus facilement ce type de terrain. C'est ce que je peux préconiser, par exemple, dans mes accompagnements, voilà, d'éviter d'envoyer au bagne certaines personnes sur des projets où on sait que ça sera le pire bourbier du monde. On essaye de trouver des alternatives pour ce type de terrain, quoi.
Juste, je me permets de faire un petit aparté, mais pour expliquer correctement ce qui se passe, mais forcément, on va dire en créant des zones. En créant des zones où les chevaux vont du coup passer, repasser, bah avec certains types de sol sur une saison d'hiver qui est pas forcément clémente en termes de météo et l'addition d'un type de sol, bah on va se retrouver avec des petits champs de boue, des petites tranchées de boue. Et c'est pour ça que Claire-Marie dit c'est pas forcément le plus recommandé en fonction de certaines natures de sol, parce qu'après bah faut pas oublier que quand même on l'a pas peut-être dit et il faudrait qu'on le répète, mais le principe aussi quand même de l'équipiste et du paddock paradise, c'est que il y a une manutention qui va avec, puisque bah comme on n'est pas sur des zones vraiment très ouvertes, bah, on se retrouve vite en général avec des crottins qui vont envahir tous les chemins et ça demande quand même un certain travail manuel d'entretien au quotidien, ce qui n'est pas forcément toujours le cas si vous avez une surface de terrain pleine avec un certain ratio de taille par rapport au nombre de chevaux qu'il peut y avoir dessus. Voilà. Sans tout dévoiler de la masterclass, mais c'est un peu voilà ces questions-là qu'il faut se poser, quoi. Après, par contre, ouais, pour les petits terrains, l'équipiste, s'il y a le bon sol, ça peut être super intéressant, quoi, justement.
Oui, c'est ça. En fait, pour les petits terrains, l'avantage de l'équipiste, c'est que ça va être une super solution pour amener plus de mouvement et aussi de diversité hein, dans l'espace qui serait bah, du coup plus petit et plus rapidement ennuyeux pour les chevaux. Donc, quand c'est possible, c'est vraiment une solution d'hébergement que je vais préconiser et qu'on va moduler en fonction du projet.
Je voudrais juste finir ce petit passage sur les équipistes avant de te poser une autre question. Parce que je suis en train de me dire, il y a peut-être des gens qui écoutent et qui n'ont jamais entendu parler vraiment de ce concept ou pourquoi ce concept est né et pourquoi il est déposé d'ailleurs. En fait, Jamie Jackson, c'est en observant justement les chevaux dans leur environnement qu'il s'est rendu compte que enfin, même quand il y a de l'espace, d'une certaine manière, les chevaux vont privilégier un peu toujours les mêmes passages, toujours les mêmes chemins. C'est assez facile à voir dans une pâture qui est... un grand carré, parce que bah on voit en fait les traces dans lesquelles les chevaux passent et repassent à la longueur de journée. Réaménager l'espace avec un principe de piste et pas forcément priver les chevaux d'espace d'une certaine manière, parce que naturellement ils se comportent comme ça, c'est-à-dire que même si vous avez, j'en sais rien, 5000 m² avec un seul cheval dedans, vous allez voir qu'il va toujours être à peu près dans les mêmes zones. Il va a priori explorer principalement les mêmes zones et utiliser les mêmes trajets pour aller d'une zone A à une zone B. Donc en fait, on mime, entre guillemets, ce qui est fait naturellement par le cheval et c'est juste une manière de repenser l'espace et pas forcément une privation d'espace. Voilà, petit aparté fermé du coup, de mon côté. Tu as beaucoup parlé de biodiversité. Moi, ce que j'apprécie dans ton approche, c'est ce côté permaculture aussi. Bon, déjà, parce que j'y suis sensible. Je rappelle que je suis une passionnée de fleurs, entre autres. Du coup... Il y a cette notion de biodiversité qui n'est pas toujours mise en avant en général quand on va visiter des prés, par exemple, dans une pension. C'est pas quelque chose qu'on nous dit. On nous dit pas, regardez ma pâture, elle est super. Il y a une incroyable biodiversité dessus. C'est pas si sur ces critères-là, on va dire, qu'en général, une pension est vendue. Et est-ce que tu peux nous expliquer, toi, pourquoi, du coup, justement, ça devient un critère important à considérer, ou en tout cas, c'est avec cette biodiversité qu'il va falloir, enfin, faire des choix ou sélectionner ou pas les zones justement qui sont bonnes ou pas bonnes pour les chevaux et pour notre prairie en fait.
Oui, bah déjà en fait au-delà d'y voir un intérêt pour nos chevaux, J'aime bien qu'on puisse chacun prendre conscience que si on a l'opportunité de gérer ou d'être propriétaire d'un terrain, ça veut dire aussi qu'on a la main sur les décisions qu'on prend et qui pourraient impacter en bien ou en mal la biodiversité. Donc finalement, toutes les personnes qui souhaitent, comme on dit, faire leur part dans la préservation des espaces naturels, eh ben le fait d'avoir des chevaux, c'est une belle opportunité de faire sa part et de prendre soin d'un lieu en particulier. Et finalement, c'est une boucle vertueuse, voilà, car si on maintient ou si on amène plus de biodiversité dans nos prairies, ça veut aussi dire qu'on va proposer un habitat diversifié et plus résilient à nos équidés. Et rien que l'exemple de planter des haies, il se suffit à lui-même. On va apporter un abri, de la nourriture et des corridors écologiques à des espèces sauvages. Mais à côté de ça, on va aussi apporter un choix alimentaire plus diversifié pour nos chevaux, ce qui va leur apporter des nutriments, vitamines qui sont essentiels à leur santé. Voilà, c'est une boucle vertueuse.
Et ça, on va en reparler justement aussi un peu plus dans la masterclass, mais c'est vrai que cette notion de biodiversité, c'est quelque chose auquel on est peu confronté au départ, c'est-à-dire que, comme je le disais dans les pensions, c'est pas un des critères qui est mis en avant. Et après, il y a aussi beaucoup de pensions qui ont trouvé leur place sur d'anciennes terres agricoles sur lesquelles il n'y a pas forcément énormément de biodiversité parce que pendant des années, les sols et les terrains ont été semés et ressemés pour accueillir parfois d'autres espèces animales qui sont liées à de l'élevage plus ou moins intensif. Et d'une certaine manière, ça a eu un impact tout simplement sur quel est le mélange de la prairie, c'est-à-dire quelles sont les herbes qu'on trouve dessus, etc. Donc ça, j'en parlais dans le chapitre qui est sorti il y a 2 semaines, le chapitre 72 sur 3 conseils pour bien choisir sa pension équine. Donc ça, c'est un critère méga important. Et surtout, donc, dans la préservation, comme tu disais, Claire-Marie, il y a aussi plein d'astuces sur qu'est-ce qu'on peut ressemer, replanter, pour justement voir cette richesse, en tout cas d'espèces, réapparaître, on va dire, sur nos prairies. On vient de parler de la flore, à associer donc avec cette notion de variété de plantes qui peuvent être justement le mélange de prairies en tant que telles, donc c'est-à-dire les herbes, en tout cas pas forcément que les herbes, mais ce que le cheval va manger au sol, ce que le cheval peut manger en hauteur. Il y a un autre point qui me semble crucial, et on a commencé à en parler justement, c'est le rôle que va jouer l'eau et son accès aussi dans la conception de la pâture, parce qu'on... Tu as commencé à mentionner que y a des terrains qui pouvaient avoir du mal à drainer l'eau, donc qui peuvent avoir ce côté stagnant. Il y a aussi beaucoup de terrains qui ont parfois des ruisseaux en bordure, donc on trouve que c'est une super bonne idée, mais est-ce que c'en est vraiment une? Et puis, en fonction des régions, la gestion de l'eau, c'est compliqué. Je vais reprendre le sud, mais quand il pleut jamais, ça veut dire que du coup, va falloir amener l'eau aux chevaux parce qu'il n'y a pas forcément de l'eau sur la pâture ou c'est difficile de récupérer l'eau de pluie, de la filtrer, etc. etc. quoi.
Ouais. Alors, le sujet de l'eau, c'est super intéressant et moi, je vais l'aborder de manière plus générale, c'est-à-dire pas forcément au sens on a besoin d'eau pour abreuver nos chevaux, parce que ça... Il y a toujours une solution pour donner de l'eau à nos chevaux. Mais moi, je vais plutôt parler de la présence d'eau sur le terrain, qui soit plutôt dans l'infiltration de l'eau dans le sol, ce qui est la base derrière d'avoir des plantes qui poussent. Donc voilà, je vais aborder le sujet plus dans cette vision-là des choses. Donc finalement, la présence d'eau sur un terrain, c'est souvent un peu tout ou rien, hein, en fonction des saisons. Et malheureusement, quand on écoute les scientifiques du GIEC, qui sont les experts sur l'évolution du climat, on va connaître de plus en plus de phases à la fois de sécheresse, mais aussi des phases avec des grands excès d'eau, un peu comme ce qui se passe en ce moment pour un certain nombre de régions en France. Et en particulier dans les Hauts-de-France, qui est une des régions qui sera malheureusement les plus touchées à l'avenir. Donc du coup, on constate que derrière nos prairies, elles sont fortement impactées par ces problématiques et qu'on peut se retrouver dans des situations assez délicates, comme être complètement sous l'eau l'hiver et ne plus rien avoir à manger, par exemple, l'été dans nos prairies. Voilà, ça peut vraiment passer de tout et son contraire sur l'année. Et derrière ce constat, il y a forcément des adaptations dans notre gestion qui sont à mettre en place. Et c'est là où on est parfois un petit peu perdu sur voilà comment gérer nos prairies. C'est là tout l'intérêt de s'intéresser à nos sols et à leur capacité à gérer ces épisodes de pluie et de sécheresse. Donc la première problématique qu'on peut avoir sur des prairies équines, c'est de se retrouver avec des sols tassés. Et donc ça, les sols qui sont tassés, ils vont plus fonctionner normalement au niveau de la régulation de l'eau, notamment. Parce que certains sols voilà, trop tassés, ils vont même plus être capables d'infiltrer l'eau. Et là, c'est les problèmes d'érosion de sols qui arrivent avec l'action de la pluie en hiver sur les sols. Et ces mêmes sols en été, ils auront même plus la capacité d'infiltrer l'eau et donc de la stocker, ce qui est nécessaire l'été à maintenir un bon couvert végétal. Donc, c'est vraiment important de réussir à comprendre que la bonne santé d'un sol, elle va directement impacter le comportement de l'eau sur les prairies. Et donc agir sur la fertilité des sols en conséquence. Une des solutions à cette problématique, c'est de pouvoir s'appuyer notamment sur la plantation de haies et d'îlots boisés, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, les arbres, ils ont un rôle indispensable dans la régulation du cycle de l'eau. Donc c'est vraiment dommage de s'en priver. Et en plus, la liste des bénéfices suite à des plantations, elle est vraiment longue pour le coup. Donc c'est une des actions, on va dire, assez facile à mettre en place quand on est chez soi, en tout cas. Donc, faut voilà, ne pas s'en priver.
Si je traduis, il y a le côté, le beau carré d'herbe entouré de clôtures en fil, c'est pas forcément ce qui va nous aider à préserver justement nos terrains. Et finalement, le roulement de pâture, bah, c'est une première piste, ou en tout cas le fait de laisser du repos pour pas abîmer ce sol, et puis planter du coup des plantes. En tout cas, je trouve ça hyper intéressant parce que je pense que c'est vraiment des questions qu'on oublie de se poser clairement. Enfin, quand on démarre, on est déjà juste content d'avoir trouvé un espace.
C'est sûr. Oui, c'est sûr.
C'est aussi de ça dont on va parler dans la masterclass. C'est que, en fait, investir sur un terrain, ça peut être un gros investissement. Ça veut dire aussi potentiellement faire des aménagements qui coûtent de l'argent, qui en tout cas prennent des ressources. On en a parlé dans l'interview avec Apolline. La semaine dernière, elle aussi, elle a fait des travaux en fait pour transformer son terrain au fur et à mesure des années. Et parfois, ça s'est pas toujours anticipé, ou en tout cas, le dit terrain qui nous semblait idéal, bah quand on va vouloir faire des aménagements dessus, on va se rendre compte que justement, c'est peut-être pas aussi simple que prévu, parce que bah il y a tout un niveau en fait de couches, j'ai envie de dire, d'apprentissage qui vont se faire en fait au fur et à mesure. C'est quoi les défis les plus courants que toi, tu as relevés quand tu as rencontré des propriétaires de chevaux qui avaient justement une gestion quotidienne de leur pâture? Finalement, c'est quoi qui remonte souvent? C'est-à-dire, ah, ça, j'avais pas anticipé, puis du coup, bah, c'est vraiment la problématique que je dois traiter tous les quatre matins. Et à l'inverse, est-ce qu'il y a des choses qui s'avèrent finalement hyper faciles alors qu'on pourrait s'en faire un peu une sorte de montagne, tu vois, avant même de commencer?
Un des principaux défis que rencontrent les propriétaires de chevaux, c'est de devoir s'adapter en fait aux problématiques qu'ils vont rencontrer chez leurs chevaux. Et là, on va parler de pathologie. Hein, c'est toujours le petit truc qu'on s'attendait pas qui nous arrive dessus. Et finalement, il y a beaucoup de pathologies qui sont en lien direct avec le mode de détention de nos chevaux. Donc, pour ne citer que l'emphysème, les fourbures, les chevaux qui pourraient être SME. Donc, ça, c'est quelque chose où parfois, voilà, ça nous tombe un petit peu dessus et derrière, on est démunis ou on ne sait pas comment s'organiser parce que c'est des adaptations qui peuvent être assez contraignantes, voire très contraignantes. Et parfois, on a des chevaux avec des besoins opposés au sein d'un même troupeau. Donc, c'est beaucoup de remises en question pour le propriétaire, des compromis. Voilà, c'est pas facile à gérer. C'est un des grands défis, selon moi.
Tu confirmes ce que disait Apolline la semaine dernière, qui justement a un petit ibérique qui grossit à la vue du brin d'herbe et un seul français qui, lui, clairement, l'herbe bien verte, tu vois, c'est pas un problème, quoi. Donc voilà, tu le confirmes, ce n'est pas que le cas d'Apolline, c'est le cas de beaucoup, beaucoup de propriétaires. Tu parlais d'ailleurs de pathologies qui du coup s'inscrivent sur le long terme et la gestion du cheval au long terme, mais parfois même une tendinite qui s'installe et qui dure parce que y a un manque de capacité à gérer l'environnement pour un certain temps, ça devient aussi une sacrée épine dans le pied, quoi.
Ouais, c'est ça. Il faut toujours un petit peu anticiper. Il y a toujours des bobos qui pourraient nécessiter, par exemple, une immobilisation du cheval pendant 3 semaines. Et ça, quand on est sur une prairie, par exemple, si on n'a pas anticipé d'avoir ce petit paddock éventuellement ou ce sas qui pourrait servir de pseudo box, enfin voilà, il y a vraiment des choses qu'on souvent on n'anticipe pas et quand le moment vient de rencontrer une problématique qui nous demande de s'adapter, si on y a pensé avant, c'est mieux. On se fait beaucoup moins de cheveux blancs, quoi. Par contre, si je peux rebondir du coup maintenant sur ce qui s'avère plutôt simple, on va dire, c'est que souvent, voilà, en tant que propriétaire de chevaux, on a vraiment nos propres ressentis, c'est inconscient, hein, sur ce qui va, sur ce qui va pas. On a tendance à beaucoup plus ressentir les changements de comportement, par exemple, parce que voilà, on s'occupe de nos chevaux au quotidien, on les connaît par cœur, donc on va vraiment plus rapidement déceler ce type de problématique, et ça, c'est une des principales forces d'être propriétaire et de gérer ses chevaux, parce que c'est comme ça qu'on peut agir en conséquence rapidement, sans laisser trop traîner un problème, par exemple.
On a parlé de biodiversité, de prendre soin de sa prairie, et tu l'as dit en intro, l'entretien d'une prairie, ça influence le bien-être, ou en tout cas, toi, c'est la conclusion auquel t'es vraiment arrivé. Et que t'as mis au cœur ton projet, Equus Paradise. Du coup, je pense que les gens commencent à comprendre que tout ça, c'est relié, mais si on devait, si tu devais faire un petit focus 5 minutes sur entretien, bien-être, santé des chevaux, pourquoi, comment, qu'est-ce que tu nous dirais? Quel est le message que tu pourrais faire passer là?
Si on fait un focus sur une prairie à vocation alimentaire, par exemple, une prairie en mauvaise santé, ça peut être donc une prairie surpâturée, où la présence de graminées elle est de plus en plus faible et elle va laisser place à des plantes qui peuvent être extrêmement néfastes pour les chevaux. Donc, on peut prendre l'exemple de la porcelle enracinée qui est responsable du harper australien. C'est une maladie assez impressionnante, hein, qui cause des hyperflexions au niveau des postérieurs. Voilà, on n'a pas envie que ça nous arrive, mais si on gère mal notre prairie, c'est quelque chose qui peut malheureusement se produire. Alors, une prairie en mauvaise santé, ça peut être aussi, par exemple, une prairie qui n'est jamais laissée au repos et qui serait en termes de surface trop petite. Donc derrière, ça pose aussi la question de la gestion du parasitisme qui, pour le coup, va influencer directement la santé des chevaux. Voilà. Donc c'est vraiment dans nos pratiques de gestion qu'on va pouvoir limiter ces risques-là qui influencent directement la santé des chevaux.
Ouais, finalement, en fait, une prairie, c'est l'endroit où nos chevaux mangent, où nos chevaux dorment, en fait, où nos chevaux vivent. Et ils n'ont pas forcément le loisir de pouvoir quitter cet endroit-là. Donc, c'est pour ça que ça a autant de place et d'importance, finalement, dans le bien-être et dans la gestion de la santé de nos chevaux. Je rappelle que un cheval, ça mange environ 16 heures par jour. Donc, si la prairie, c'est-à-dire l'endroit qui fournit en fait la base de son alimentation, va pas bien, forcément l'impact il est direct. Et on voit même nous humains en général, si on mange mal ou si on mange de la junk food pendant une semaine, a priori on n'est pas en très bonne santé au bout de cette même semaine-là. Alors, si tu ne devais donner qu'un seul conseil avant de se lancer dans la recherche de cet endroit idéal, ce serait quoi pour toi? Imaginons quelqu'un qui n'a pas encore trouvé un terrain ou tu vois.
Si le lieu n'est pas encore choisi, du coup, c'est le moment idéal pour bien définir son projet d'aménagement et définir les objectifs derrière qu'on va vouloir se fixer. Ce qui est intéressant, c'est d'obtenir finalement des critères qu'on aura besoin de respecter qui pourraient en fait nous limiter dans nos objectifs de fonctionnement. Voilà, chacun a des objectifs différents. Par exemple, un futur gérant d'écurie de propriétaire, il va en principe définir son projet pour qu'il puisse se rémunérer, hein, c'est mieux, c'est le principe. Et donc, il va peut-être se baser sur un nombre minimum de chevaux à accueillir pour être rentable, ou il va aussi réfléchir sur le temps qu'il pourra mettre à disposition des tâches du quotidien, il va aussi définir un budget à investir dans les installations, etc. Le fait de mieux définir ses objectifs, ça permet ensuite de mettre le curseur sur nos besoins en termes de terrain, de surface, d'aménagement, d'installation. Et derrière, ça peut vraiment éviter de faire des erreurs ou encore d'avoir des grandes désillusions sur les possibilités d'aménagement sur un terrain qui finalement serait pas adapté, trop petit, trop grand aussi. Ça arrive hein, d'avoir des terrains trop grands. C'est rare, mais ça peut être aussi le cas. Donc voilà, le conseil que je donne avant de se lancer, c'est de bien définir son projet.
Tu donnais le cas là d'un gérant de pension, mais même nous, en fait, en tant que simple propriétaire, on peut avoir des objectifs, c'est-à-dire que bah déjà, si le terrain est lié à notre maison ou si on va prendre un terrain en autogestion, mais qui est peut-être pas en fait proche de notre domicile, déjà, ça va pas du tout être le même objectif parce que bah on n'est pas sur place, donc on va peut-être pas penser à la gestion de la même manière, on va peut-être pas avoir les mêmes besoins. Et puis bah, en fait on a tous des objectifs, même quand c'est d'avoir notre cheval à la maison, c'est-à-dire que on va devoir rajouter des heures. Je pense que vous l'avez bien compris pour tous ceux qui ont écouté l'interview de Apolline la semaine dernière, c'est 60% finalement de son temps il est sur la gestion de ses chevaux, il n'est pas à le passé avec ses chevaux finalement. Donc on a des objectifs qui soient temporels, d'énergie, de gestion de la ressource, gestion des déchets, enfin voilà, il y a tout un tas de choses qui va dépendre de ce que l'on peut donner ou pas donner finalement au quotidien. J'ai une toute dernière question pour toi Claire-Marie avant qu'on finisse. Toi, quelles étaient tes appréhensions personnelles? Je trouve ça intéressant parce que bah, peut-être que certaines personnes vont se rendre compte que même si toi, c'est ton job, tu vois, ça n'empêche pas en tant qu'humaine et en tant que personne non professionnelle, parfois, on a des appréhensions sur la gestion de ton équipiste. Et est-ce que tu pourrais nous partager ça, si tu en avais ou peut-être que tu n'en avais pas du tout?
Si, alors j'en avais parce que je savais que je mettais les pieds quand même sur un terrain assez particulier en termes de structuration. Et voilà, la zone géographique fait que c'est quand même un terrain particulier. Donc au début, j'avais des appréhensions sur comment j'allais gérer une prairie humide. Parce que quand je voyais qu'au mois d'avril, mai, le sol, il était toujours gorgé d'eau. Enfin, c'était même pas gorgé d'eau, il était sous l'eau, hein, clairement. Mais à côté de ça, que le couvert végétal, il était ultra dense. Bah, en fait, je me demandais comment j'allais pouvoir à la fois gérer la prairie, donc mettre les chevaux sans que ça défonce le sol, mais aussi ne pas me retrouver avec un maxi gâchis au niveau de l'herbe. En faisant pâturer trop tard, parce que ça aurait été le cas. Donc voilà, au début, je me demandais comment j'allais gérer cette prairie-là. Et finalement, donc la prairie humide, c'est devenu un peu ma meilleure alliée pour le pâturage des juments pour les 2 mois les plus compliqués de l'été, donc juillet-août. Dès que le sol il est suffisamment portant et que les autres prairies qui sont plutôt sableuses, elles ont besoin de repos, en fait, ça va être ce moment-là où je vais passer les juments sur les prairies humides. Et ça, ça a été voilà une inquiétude à la base, mais en fait, maintenant, c'est devenu presque le point fort du lieu. Et derrière, les juments, elles ont vraiment su en fait s'adapter à dans leur manière de pâturer sur la prairie. Elles se sont adaptées au fil du temps. Par exemple, sur les parcelles, il y a du jonc et j'ai vraiment vu leur comportement alimentaire s'adapter au fil des années par rapport à cette plante. Au début, elles avaient tendance un peu à bouder, parce que voilà, je pense que c'est assez fibreux quand même, assez dur à mâcher. Donc, elles le boudaient et finalement, voilà, elles connaissaient pas cette plante aussi, je pense. Et voilà, leur comportement s'est vraiment adapté et maintenant c'est une plante qu'elles vont savoir gérer. Donc, il y a plus le gâchis que je pouvais avoir avant et c'est vraiment une super prairie pour l'été pendant que mes autres prairies se reposent.
Merci beaucoup Claire-Marie. Je pense que c'est un épisode riche. Il y a eu beaucoup, beaucoup d'infos qui ont été données qui peuvent vous laisser entrevoir toutes ces questions auxquelles il va falloir répondre, en tout cas auxquelles il va falloir déjà penser et auxquelles il va falloir répondre si c'est votre projet ou pas de gérer en fait vos chevaux soit à la maison, soit dans un pré en autogestion. La masterclass avec Claire-Marie, elle a lieu le 9 avril à 19h, donc il est toujours temps de s'inscrire pour les retardataires et je vous laisse toutes les infos en description de l'épisode. Claire-Marie, merci beaucoup.
Merci Fanny et puis à très bientôt pour la masterclass.
Et voilà, il était temps que je quitte Claire-Marie et que je vous quitte également pour vous laisser songeur sur toutes les choses qu'il faut avoir en tête si tu souhaites devenir propriétaire à la maison. Je ne te refais pas la messe. Si tu souhaites nous rejoindre pour la masterclass du 9 avril, toutes les infos sont en description de l'épisode. Avant de te quitter, je voulais aussi te rappeler que le journal Ziggy, c'est une newsletter qui te partage tous les mois des tips pour améliorer ton quotidien en tant que propriétaire de chevaux. Si tu n'es pas encore inscrit, rendez-vous sur iggyjournal.com. A priori, si t'es arrivé jusqu'ici, c'est que le podcast t'a plu. Et je tenais énormément à te remercier de ton temps à mes côtés. Si tu as particulièrement apprécié cet épisode, tu peux me laisser un commentaire pour me dire ce qui t'a le plus marqué ou alors le partager sur tes propres réseaux sociaux pour permettre à ce podcast d'aider d'autres personnes comme toi. Enfin, si tu es curieuse et que tu souhaites suivre le quotidien d'Iggy et moi ou ne louper aucune des promos qui concernent tous les différents événements que je propose, tu peux nous rejoindre et nous suivre sur Instagram ou TikTok @iggy.journal. Merci beaucoup de ton écoute, à très vite.